Bonjour à toutes et à tous. J'invite l'ensemble des élèves et des étudiants à s'installer auprès de moi. Alors, je vous prie de vous installer. Je suis Florence Salanouf, directrice de la valorisation de l'ENSIM. Nous avons prévu, lorsque nous avons construit cette séquence avec l'équipe d'organisation de la BPI, en lien avec la direction des études et des stages de l'ENSIM, de vous présenter un certain nombre de mémoires, de travaux étudiants, d'élèves conservateurs qui pourraient être intéressants dans le cadre de cette journée actualité de la recherche dans les bibliothèques. Nous proposons donc une sélection de différentes thématiques avec les différents étudiants dans un format tout à fait nouveau par rapport aux années précédentes, sous la forme d'un jeu. Le jeu est établi de la façon suivante. Chacun et chacune a 10 minutes de présentation. À l'issue de cette petite cloche, au bout de 9 minutes 30, qui est le temps à respecter, les élèves et les étudiants savent qu'ils doivent terminer leur présentation en 10 minutes. Il y avait également cet objectif de se limiter à deux slides, ou en tout cas deux diapositives. Certains ont pu dépasser, ce n'est pas un problème en tant que tel. Donc, je vous invite à échanger avec eux. Donc, dans un premier temps, ils vont d'abord présenter leurs différents mémoires, leur présentation de leurs travaux, de leurs enquêtes, des résultats de leurs enquêtes. Et ensuite, il y aura un temps d'échange et n'hésitez pas à leur poser des questions. Donc, je vais commencer par le premier étudiant qui est à côté de moi, par ordre alphabétique, qui est Tim Carpentier, diplômé du Master Sciences de l'Information et des Bibliothèques, parcours PBD, qui va vous présenter debout. Pardon. Excusez-moi. Parce que c'est le côté statique en fait qui n'était pas tout à fait prévu. Vous avez du coup Tim, ce que je vous avais indiqué ici.
Je suis mieux comme ça.
Oui, c'est ça. Voilà.
Ça va comme ça. C'est possible.
Voilà, donc votre mémoire, c'est la place des salles d'études patrimoniales en bibliothèque au XXIe siècle, entre obsolescence et oubli. La directrice de votre mémoire, c'est Christelle Di Pietro, directrice adjointe des études et des stages à l'ENSIB, à qui on pense aujourd'hui. Et vous avez été chargée de valorisation des collections patrimoniales en alternance à la médiathèque Roger Vaillant à Bourg-en-Bresse. Vous terminez votre contrat d'adjoint du patrimoine à la ville de Lyon, à la bibliothèque municipale, et vous êtes ouvert à toute opportunité. Voilà.
Merci.
Donc, je lance, c'est moi qui ai la dure tâche de lancer vos PowerPoint. Et vous pouvez commencer, je vous passe le flambeau.
Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, ce sujet, comme ça, peut paraître pas trop donner envie, je trouve. En tout cas, c'est comme ça que je le vois quand j'explique aux personnes à qui je présente ma mémoire. En fait, il m'est venu de mon expérience personnelle à la base, c'est-à-dire de trouver que les salles d'études où on va consulter les fonds patrimoniaux étaient assez vides, là où j'allais et là où je travaillais. Donc, à l'époque, à Bourg-en-Bresse. Donc, moi, je me suis penché sur ce sujet, tout d'abord un peu, enfin, pas innocemment, mais en cherchant de la littérature. Et c'est la première amorce, en fait, pour commencer à rentrer dans la recherche, c'est que la littérature sur le sujet est beaucoup trop pauvre. Elle n'existe même pas concrètement. C'est-à-dire qu'on va avoir des livres qui vont traiter du patrimoine, des fonds patrimoniaux, de pourquoi ils existent en bibliothèque, ça, il n'y a aucun problème. Il y a plein de travaux super intéressants. Mais sur le fonctionnement de la salle d'études, sur le public qui va venir dans cette salle d'études, il n'y a rien. Il y a quelques mémoires qui sont très 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 bons, dont je me suis, qui m'ont servi de source sur certaines évolutions architecturales d'espace dans des lieux très précis, mais il n'y a pas une littérature conséquente. Donc en fait, je vais me retrouver face à quelque chose que je dois créer en fait un peu de toute pièce, c'est-à-dire recevoir une information, créer une information, concernant le public qui vient dans ces lieux, comment fonctionnent ces lieux, comment il est vu. Donc, le but, ça a été d'aller directement voir en fait les professionnels. Dans mon travail, j'ai pas du tout le choix d'aller voir le public. Fallait faire un choix. Je me suis penché sur le ressenti concret des professionnels. Donc, il y a eu deux types de méthodes. Donc, une enquête quantitative, une enquête qualitative. Donc, l'enquête quantitative, elle a consisté à la réalisation d'un questionnaire de 15 questions qui a été diffusé en ligne par différents canaux, donc des emails, des forums, auprès des bibliothécaires patrimoniaux. Donc, ça peut être des conservateurs, des gestionnaires de fonds, des chargés de collection. Des questions qui visaient à donner un léger ordre d'idée sur... un ordre d'idée assez général sur combien de places avez-vous dans votre espace, est-ce que vous trouvez que oui ou non il est utilisé, est-ce que vous le trouvez oui ou non désuet. Un peu ce genre de questions qui permettaient d'avoir un ordre d'idée. Donc, d'un côté, on va avoir des réponses qui vont nous montrer à chaque fois une grande richesse, une grande richesse d'éléments dans ces espaces, parce que pour ceux qui n'ont pas la chance de les connaître, il y a un mobilier qui peut être très particulier pour la consultation de ces documents. On a des salles qui sont magnifiques parce que ce sont des salles d'études anciennes dans des bâtiments classés, monuments historiques parfois, qui sont magnifiques, mais qui d'un côté, l'ambiance générale, c'est que la fréquentation est à la baisse, que l'utilisation n'est plus la même et qu'il faut carrément repenser l'espace. Et du coup, avec ça, j'avais des éléments qui me permettaient de faire des chiffres. Donc, on était majoritairement sur du 60-65% dans quasiment tous les cas où l'espace pose un souci. Il n'y a pas une satisfaction complète. On pense qu'il faut changer quelque chose. Donc, du coup, l'autre aspect, c'était l'enquête qualitative, c'était de mener des entretiens directs avec ces professionnels. Donc, des échanges que j'ai fait par téléphone, en physique, en visio, de bibliothécaires patrimoniaux de toute la France, pour avoir justement leur retour d'expérience. Moi, je m'attendais à galérer comme pas possible. Donc, je pense que je n'ai pas précisé, sur la première enquête, j'ai eu 65 réponses, ce qui était déjà beaucoup. Et là, je vais mener 30 entretiens qui, à chaque fois, durent au moins une heure, voire plus. Donc, il y avait des choses à dire. Il y avait vraiment une envie de parler, en fait, de son métier, de parler de ce sujet. Et moi, ce qui m'a été dit quasi unanimement de chaque professionnel, c'est que, enfin, quelqu'un qui s'intéresse à ça. Donc, c'était trop bien, du coup, parce qu'ils avaient plein de choses à dire. Et moi, j'étais super content, je pouvais rebondir. Donc, à chaque fois, on va tomber, en fait, sur un peu toujours la même chose. L'espace, il est bien pensé à la base, il est super beau, on n'arrive plus à avoir du monde. On n'arrive plus à avoir du monde parce qu'il y a plusieurs éléments qui vont entrer en ligne de compte. Déjà, il y a une très forte numérisation des fonds patrimoniaux, ce qui est très bien, ce qui permet de les conserver et aussi de les diffuser à distance, donc le chercheur n'a plus à se déplacer. Mais d'un côté, ça a carrément fait baisser la fréquentation, mis à part pour les fonds locaux, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces fonds-là, patrimoniaux, ont aussi souvent un rapport assez fort avec l'histoire locale. Voilà. Dans 92% des cas des 65 bibliothèques interrogées, il y a un fonds local dans la bibliothèque patrimoniale. Donc il y a ce décalage de pratique. Il y a le fait que l'espace est très souvent isolé du reste des espaces de la bibliothèque, qu'il n'est pas du tout pensé, même dans la recherche, comme devant être un espace innovant. Parce que c'est un espace de contrainte, parce que des fois il y a des collections qui vont être exposées, donc qu'on doit faire avec le mobilier d'époque. Donc le décloisonnement, il se fait dans certains lieux, il y a des endroits où c'est fait. Mais pour que ce soit fait, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte qui sont extrêmement complexes. Déjà, le fait qu'il faut mobiliser ses collègues, ses propres collègues, à la question de la conservation et de comment elle se travaille. Parce qu'en fait, c'est pas le même travail. C'est un bibliothécaire qui travaille un travail d'historien, un travail d'étude, de conservation, de diffusion plus lente. Et ça va totalement en opposition avec ce qui est véhiculé aujourd'hui dans le monde des bibliothèques, c'est-à-dire de la polyvalence dans l'espace, l'idée justement de toucher le public par des canaux totalement différents, comme ça a été présenté tout à l'heure, qui sont super intéressants, mais qui du coup ne rentrent pas dans le métier du bibliothécaire patrimonial. Et donc, à partir de là, il faut trouver des solutions pour tenter d'améliorer ça. Donc, il y en a qui sont faites, qui vont fonctionner justement en ouvrant à la connaissance de ce fonctionnement du métier de bibliothécaire patrimonial auprès des autres collègues, auprès des élus, parce que des fois, C'est, voilà, la hiérarchie ne va pas du tout se préoccuper de ces fonds qui sont parfois des bibliothèques municipales classées, qui sont des fonds particuliers. Donc ça va être mobilisé là-dessus, faire un vrai travail de plaidoyer auprès de ça. Parce que voilà, on a vraiment eu un langage, c'est des mots assez forts, comme quoi c'était des lieux qui étaient des mouroirs et complètement résiduels. Et en fait, on en vient à les fermer. C'est-à-dire que plusieurs bibliothécaires ont dit voilà, ça ne sert plus à rien qu'on ait un espace patrimonial, on va faire autre chose à la place. Et moi, les personnes, je les reçois dans mon bureau pour consulter. C'est quand même assez étonnant, mais ça arrive dans plusieurs cas. Donc, il y a des tentatives d'évolution par des mutualisations avec d'autres services, notamment les archives départementales ou municipales, parfois ça peut se faire, des évolutions d'espace, avec une évolution vraiment du cheminement, en fait, parce que ça fait vraiment, à part avec le reste de la bibliothèque, parce qu'il y a des très vieux usuels, parfois qui ne sont pas des documents patrimoniaux, des documents de consultation, mais qui sont peu utilisés. Mais malgré tout, donc voilà, nous, ce qu'on est arrivé en conclusion, on est arrivé à deux choses, c'est que la profession doit être soutenue en fait par le reste, enfin la profession de bibliothécaire patrimonial et ce secteur-là doit être soutenue par le reste de la profession parce qu'il n'y a pas, il y a pas assez de recherche sur le sujet, il n'y a pas assez de littérature et d'intérêt. C'est ce qui m'a été livré aussi auprès de ces personnes-là qui sont évidemment qui ont bien plus d'expérience, de connaissances que moi là-dessus. Donc ça c'est une vraie volonté, c'est-à-dire qu'on se sent soutenu et qu'on fasse par les deux pour pouvoir faire évoluer ça. Mais de l'autre côté aussi, ils doivent, en fait, pour la plupart, être dans une démarche d'évolution sur la façon de faire connaître leurs fonds. Parce que la valorisation, en fait, elle doit garder une singularité. C'est-à-dire, la valorisation de ces lieux, elle doit garder une singularité. C'est-à-dire, oui, c'est spécial parce que c'est la base, en fait, de la bibliothèque municipale. La bibliothèque municipale, elle vient des confiscations révolutionnaires. C'est un long cheminement, mais c'est ça. Et ça, en fait, ça doit permettre d'intégrer ce lieu qui est à part dans la bibliothèque d'aujourd'hui. Votre bibliothèque aujourd'hui, c'est un espace où vous pouvez faire ce que vous voulez, entre guillemets, jouer aux jeux vidéo, manger et aller lire, parce qu'à la base, ça vient de ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait, qui, je pense, et il pense aussi, peut être super intéressant, et qui n'est quasiment jamais fait. Donc voilà, et après, parvenir à s'ouvrir aussi au public qui ne viennent plus du tout. Pas ceux qui consultent à distance, mais les personnes qui peuvent tout simplement pas avoir le patrimoine, donc qui n'en ont pas connaissance, donc porter à connaissance des scolaires, le rendre accessible aux personnes qui sont atteintes de handicap ou de dyslexie, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, si demain vous voulez consulter un document patrimonial que vous n'avez pas en capacité de le lire, il n'y a pas de méthode alternative, c'est pas possible. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Il y a toutes ces choses-là dans lesquelles on s'est... Il y a plein de portes qui s'ouvrent, donc c'est très intéressant, je vous pousse à aller lire, à aller parler en fait à ces bibliothécaires-là, parce que c'est eux qui ont fait le travail de recherche. Enfin, mon travail de recherche, c'est eux qui l'ont fourni par toute leur expérience, par tous leurs éléments, leurs connaissances. Et à partir de là, je pense qu'il y a plein de choses à faire dans ce domaine-là. Donc, voilà. Merci à vous pour votre écoute.
Bravo, merci beaucoup Tim, vous avez respecté le temps, je n'ai même pas pu actionner la cloche alors que je regardais le chronomètre avec beaucoup d'application. Donc vous pourrez poser vos questions à Tim et à chacun des élèves et à chacune des étudiantes également à la fin de la séquence. On va continuer avec Alexandre Couturier, élève conservateur des bibliothèques de la promotion DCB 31, qui va prendre son poste au 1er juillet en tant que conservateur des bibliothèques, responsable du service de l'accueil, à la BU de Paris 8, responsable adjoint des services au public. Est-ce que j'ai tout bon ? Parfait. Il va vous présenter son mémoire « Prendre en compte la santé mentale des publics en bibliothèque universitaire » sous la direction de Nadine Kicker du service commun de la documentation et des archives de l'Université d'Angers.
Bonjour à toutes et tous. Je remercie la BPI et l'ENSIB pour leur invitation. Alors, cette image, vous l'avez certainement déjà toutes et tous vue. Ou du moins l'une de ces variantes. Donc c'est la représentation un peu qui est devenue canonique de la médiatisation de la souffrance étudiante durant la crise du Covid. Et je serais bien incapable de faire une revue de presse qui soit exhaustive, tellement la médiatisation sur le sujet a été soutenue. Moi-même, quand je suis rentré à l'ENSIB, donc en 2022, j'ai gardé en mémoire ces images-là. J'ai vu aussi que les collègues parlaient de précarité étudiante. Par exemple, durant la journée organisée par la DBU et la BF qui s'est tenue à la Bulac en septembre 2022. J'ai aussi vu que le sujet du bien-être étudiant était prégnant, formulé dans les feuilles de route ministérielles et universitaires, qu'il était décliné aussi sur les campus et sur le lieu de vie étudiant. Mais je me suis demandé, dans tout ça, que peut la BU ? J'ai rédigé un mémoire d'études pour les diplômes de conservateur qui s'intitule « Prendre en compte la santé mentale des publics en bibliothèque universitaire ». Au cours de ces travaux, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai d'abord vu que les bibliothécaires, donc notamment dans les pays nordiques et dans le monde anglo-saxon, s'étaient déjà posé beaucoup de questions, que la littérature était parfois importante sur le sujet. Donc je me suis dit « très bien, ça serait intéressant de faire profiter les collègues francophones de toutes ces recherches-là ». Ensuite, je voulais aussi interroger mes collègues. J'ai donc construit un questionnaire qui soit à la fois qualitatif et quantitatif, avec des questions portant principalement sur leurs ressentis, sur leur vision de la bibliothèque, mais aussi sur les pratiques dans leur établissement, donc vis-à-vis de ces enjeux-là. Le but du jeu étant de voir si les opinions des usagers et des usagères au regard de plusieurs enquêtes de public pouvaient converger avec les opinions des professionnels. J'ai complété le tout donc, en menant des entretiens avec des personnes responsables des services au public, mais aussi avec une infirmière universitaire, un médecin de santé publique, des personnels du monde psychosocial. Et donc tout le résultat de cette enquête et le mémoire est aujourd'hui en ligne. Donc peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient peut-être de rappeler quelques chiffres. La population étudiante est très impactée par les symptômes dépressifs, l'anxiété et les pensées suicidaires, dans une proportion plus large que la population non étudiante du même âge. Donc c'est ce que montre ce graphique qui compare la prévalence de ces symptômes dans un panel de jeunes en 2020-2021 et qui montre que 36,6% des jeunes étudiants de ce panel déclarent des symptômes dépressifs contre 20% des jeunes du même âge qui ne sont pas étudiants. Donc cette différence très nette en 2020-2021, elle était un peu moins, mais elle était quand même significative avant le Covid. Donc l'expérience de l'enseignement supérieur est donc associée significativement à des souffrances psychiques. Donc le milieu des études supérieures, il peut être un contexte avec des facteurs défavorables au bien-être psychique, donc la sortie du domicile familial, la précarité financière, l'isolement, le stress, le manque de sommeil, etc. Si on prend juste quelques chiffres, par exemple un interne en médecine, il travaille en moyenne 58 heures hebdomadaires, et un étudiant en prépa, c'est au minimum 40 heures de travail en supplément des cours qu'il a dans la prépa. Donc les facteurs environnementaux sont très importants. Ce n'est pas qu'une question de ressources personnelles, par exemple pour arriver à gérer le stress, etc. C'est important de prendre en compte à chaque fois le contexte. Or, les BU sont quand même, ont assez peu de prise sur un certain nombre de facteurs que je viens d'évoquer, notamment le facteur du rythme des cours, de la compétitivité, de la précarité financière. Mais ça ne veut pas dire que rien ne peut être fait. Alors que peut-on faire ? D'abord, ne pas nuire. Donc, est-ce à dire que la bibliothèque pourrait nuire ? Donc, nous aimons bien nous représenter nos institutions comme des havres de paix, des lieux de calme, de concentration, où les étudiants peuvent prendre du temps, de la distance, prendre de la distance sur le stress. Donc les BU seraient neutres, accueillantes et quelque part séparées du reste de l'expérience universitaire. Quand j'ai interrogé donc, les collègues, sur 115 collègues interrogés dans le cadre de l'enquête, 4/5 n'étaient pas d'accord avec l'affirmation que la bibliothèque universitaire est un lieu qui provoque du stress. Donc il y a quand même 1/5 des bibliothécaires qui reconnaissaient que la bibliothèque pouvait exacerber le stress des études. Alors cette dimension de la bibliothèque un peu comme lieu où, qui peut provoquer du stress, qui peut être anxiogène, ça a été bien étudié, notamment dans le contexte anglo-saxon. Si l'on se tourne vers cette littérature professionnelle, il y a un article assez fondateur en 1986 d'une bibliothécaire qui s'appelle Constance Mullen, qui a fait une enquête assez large auprès d'un grand nombre d'étudiants, et elle a conclu qu'environ 80% des étudiants et d'étudiantes interrogés décrivaient en premier lieu la bibliothèque universitaire comme en termes de peur. Peur de paraître bête, stress lié à l'incompréhension de comment ça fonctionne, bref, la bibliothèque vécue comme une forme un peu de violence symbolique pour elles et eux. Heureusement, vous me direz, de l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, on accueille les L1, on leur présente la bibliothèque, on leur fait visiter. On se montre peut-être plus disponible pour les usagers aujourd'hui. Toutefois, on voit quand même que la bibliothèque peut être encore un lieu d'inconfort. Donc malgré cette attention pour l'anxiété à la bibliothèque du fait de ces travaux, des travaux critiques postérieurs soulignent que la profession elle s'intéresse en fait plutôt aux symptômes de cette anxiété, plutôt qu'aux causes et aux systèmes profonds qui perpétuent le manque de confiance des publics dans les espaces de la bibliothèque. Et donc en raison, je l'ai déjà dit, du présupposé de la profession selon lequel la BU est par définition détachée de l'expérience universitaire. Et donc certains travaux critiques mettent plutôt en avant qu'il faudrait plutôt parler de malaise académique plutôt que de vraiment anxiété liée à la bibliothèque, puisqu'en fait les sentiments que les étudiants peuvent éprouver d'être perdus, d'avoir honte de ne pas savoir, en fait ne sont pas du tout spécifiques au contexte de la BU. Donc il y a tout un tas d'interfaces proposées par la bibliothèque qui peuvent être source de stress. Donc pour illustrer mon propos, je me suis amusé à écumer les réseaux sociaux en quête d'usagers et d'usagères un peu critiques. J'ai récemment fait l'expérience donc dans le cadre du mémoire de rechercher Quitus plus BU sur Twitter. Et donc vous pouvez faire cette recherche, c'est assez intéressant de voir l'anxiété qu'un simple bout de papier peut générer. Alors que pouvons-nous faire ? D'une part, on peut simplifier l'usage et l'appropriation de la bibliothèque. Donc, n'est-il pas possible, dans le cadre du Quitus, de travailler en lien avec les écoles doctorales, les services de scolarité, donc certaines BU le font déjà, pour éviter aux étudiants et étudiantes d'avoir à faire cette démarche. On peut aussi encourager les collègues à adopter une culture peut-être plus bienveillante et plus tolérante vis-à-vis des erreurs et des fautes commises par les publics. Donc des erreurs et des fautes qui peuvent d'ailleurs cacher des difficultés et soulever des problèmes de communication ou de conception de services de notre part. Alors que faire d'autre ? Nous pouvons aussi contribuer à un cadre d'études serein et émancipateur. Et quelque part, la crise sanitaire nous a donné raison. C'est là l'un de nos rôles les plus importants. C'est d'abord peut-être assurer l'accès et l'usage de la bibliothèque au plus grand nombre, se demander est-ce que les personnes qui ont un handicap invisibilisé, qui ont des troubles du spectre de l'autisme, est-ce qu'elles osent venir à la BU ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Peut-être proposer aussi des conditions d'apprentissage adaptées aux personnes, donc là ce sont des services qui se développent énormément, proposer des nouvelles postures de travail, proposer des salles de travail en groupe. C'est aussi faciliter l'autonomie des personnes dans la bibliothèque, donc pas seulement par la formation, mais aussi en simplifiant les services. C'est aussi, enfin, renforcer la bibliothèque comme lieu de sociabilité, de convivialité, voire de détente. Et donc là aussi, ce sont des services en plein développement. On parle souvent des coins siestes, des séances de relaxation. En tout cas, les bibliothécaires, sur ce point, ils sont assez inventifs. Et surtout, assumer que la bibliothèque, elle est quelque part un lieu de sociabilité, ce que la crise sanitaire aussi, elle a vraiment mis en lumière, surtout aux yeux des professionnels. Alors que peut-on enfin faire ? Et là, ça se rapproche peut-être plus de notre cœur de métier. C'est identifier des ressources, donner des informations et savoir réorienter. Donc on parle beaucoup de littératie en santé pour les étudiants. Donc ça, c'est des axes que les bibliothécaires développent assez. C'est aussi accueillir des acteurs et des actrices de santé, de prévention dans les BU, donc notamment les étudiants en relais santé, qui sont désormais présents dans beaucoup d'universités. C'est aussi donner des informations essentielles aux étudiants, par exemple communiquer sur des ressources utiles vers lesquelles rediriger, le psychologue universitaire, Nightline, donc tout un tas de dispositifs qui peuvent exister. C'est faire enfin connaître la BU comme lieu de vie étudiant sur le campus, auprès des autres services universitaires, le service de santé universitaire, qui sont malheureusement parfois sous-dimensionnés, n'ont pas toujours le réflexe d'aller consulter les collègues de la BU. Donc, et enfin, former des collègues à la démarche d'aller vers pour repérer des et voir prendre en charge des situations de détresse et de crise. Et donc là, je conclurai évidemment que là, ça touche évidemment au rôle du bibliothécaire en service public, à leur formation. Pouvons-nous assumer ces missions seules ? Évidemment non. Face aux problématiques qui sont rencontrées en service public, on a eu tendance collectivement à privilégier parfois des approches sécuritaires, on va dire, de gestion de conflits dans des situations difficiles. La BPI, et il y a d'autres aussi établissements, notamment des BU, qui ont fait le choix de se tourner vers d'autres acteurs. des acteurs et des actrices du monde psychosocial pour voir comment prendre en charge des situations délicates et qui nous paraissent difficiles. Et donc aujourd'hui, plusieurs universités et plusieurs collectivités territoriales, ainsi que des CRFCB, proposent des formations. Donc par exemple, les PSSM, premiers secours en santé mentale, qui peuvent être très utiles pour prendre en charge des situations de détresse. Donc là, le bibliothécaire, il reste quand même dans son rôle de médiateur formé. Donc il connaît à la fois les enjeux, il sait rediriger et il sait s'entourer de partenaires compétents. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Merci beaucoup Alexandre, et bravo aussi pour ce temps de parole parfaitement chronométré. Je passe maintenant la parole à François Gaudin, voilà, que je vais présenter. Alors François Gaudin est également élève conservateur des bibliothèques de la promotion DCB31. Il prendra bientôt ses fonctions en tant que conservateur, en tant que responsable adjoint de la bibliothèque Moulin de la Housse et responsable de l'action culturelle au SCD de Reims. Et votre mémoire, François, était consacrée et consacrée à YouTube en bibliothèque universitaire, de l'offre à la production de contenu. Quelle stratégie adopter dans l'accès à l'information et l'apprentissage, sous la direction de Juliette Pinson, responsable adjointe du pôle médiation à la BULAC. Allez, à vous.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à la BPI et l'ENSIB pour m'avoir invité pour parler de mon mémoire. Donc, pourquoi parler de YouTube en bibliothèque aujourd'hui ? Donc, je pense qu'on sera tous d'accord dans cette salle pour dire que les réseaux sociaux ont pris aujourd'hui une place prépondérante dans nos sociétés, donc que ce soit au niveau de nos usages personnels, mais aussi dans le cadre de nos métiers, et particulièrement en bibliothèque. Donc la plupart des bibliothèques aujourd'hui ont franchi le pas du numérique et des réseaux sociaux. Donc évidemment, je pense à toutes les pages Facebook qu'aujourd'hui quasiment toutes les bibliothèques ont, mais on peut aussi penser au compte Instagram, au compte Twitter, Pinterest, etc. Mais malgré tout, il y a un réseau social, ou plutôt un média social qui fait encore relativement exception aujourd'hui, c'est YouTube. Ce qui est assez paradoxal parce que YouTube, ça reste quand même le leader évident sur le secteur de la vidéo à la demande. Et c'est aussi, avec Facebook, le réseau social le plus fréquenté au monde. Je vous ai mis un petit chiffre rapide. Donc, YouTube, c'est 37% du trafic mondial sur mobile, selon l'enquête de Statista. Donc, j'insiste particulièrement sur le mobile, vu que YouTube est principalement utilisé par les jeunes, et notamment donc, les publics étudiants, dont l'intérêt d'étudier le cadre universitaire. Et le mobile, aujourd'hui, c'est devenu l'interface privilégiée pour les jeunes pour accéder à l'information. Donc le fait que YouTube soit aussi présent sur mobile, ça, pour moi, c'était assez important. Enfin, il y a aussi une raison qui m'a poussé à étudier ce sujet, c'est le manque de littérature professionnelle et scientifique à ce sujet. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites ces dernières années sur YouTube, mais c'est principalement sur l'aspect marketing, sur l'aspect communication pure, mais il y a finalement très peu de choses, pour ne pas dire rien, sur le travail des bibliothèques en lien avec YouTube, alors que pourtant ça soulève un certain nombre de questions sur des thèmes qui nous tiennent à cœur, notamment tout ce qui va concerner l'évaluation de l'information, l'infobésité et d'autres questions encore. Donc, ce qui m'emmène à détailler donc la méthodologie que j'ai utilisée pour ce mémoire. Donc, afin de combler les lacunes de la littérature professionnelle et scientifique, j'ai réalisé une enquête en trois volets distincts, sachant que chacun était quand même complémentaire. Donc, tout d'abord, un parangonnage ou un benchmark, si vous préférez, des chaînes YouTube des différents établissements de l'enseignement supérieur français. Donc pour ça, j'ai repris la nomenclature utilisée par l'ESGBU sur donc les 173 structures documentaires. Donc pour chacune d'entre elles, j'ai été vérifié sur YouTube s'il y avait une chaîne YouTube ou pas. Et j'ai relevé des données statistiques quantitatives, donc le nombre d'abonnés, le nombre de vidéos, la date de création de la chaîne, le nombre de vues totales. Et j'ai aussi essayé de déterminer des catégories, d'un point de vue plutôt qualitatif cette fois-ci, sur le type de contenu qui a été produit. par les bibliothèques. Donc l'objectif principal de ce travail, qui a été relativement long, c'était de dresser une cartographie à l'instant T de la situation des bibliothèques sur YouTube dans le SR français, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas jusque-là. Et ça m'a permis, par la suite, de proposer plusieurs hypothèses et d'alimenter les autres volets de l'enquête. Le deuxième volet, c'était un questionnaire auto-administré à destination de tous les étudiants, sans distinction, donc sur lequel j'ai recueilli 267 réponses. Donc là, l'objectif de ce volet, c'était donc vraiment d'interroger les pratiques des étudiants, donc à la fois sur leur connaissance du secteur de la vidéo à la demande, sur leur connaissance des réseaux sociaux qui y étaient liés, et sur leurs pratiques et leurs goûts en termes de vidéos sur YouTube, donc tout particulièrement sur la question, par exemple, de la vulgarisation scientifique. Donc l'idée, c'était de voir aussi, de tâter le terrain, entre guillemets, pour savoir si des contenus orientés bibliothèque sur une chaîne YouTube de leur établissement pouvaient les intéresser, et si oui, quel type de contenu. Enfin, le dernier volet de cette enquête, c'était une série d'entretiens semi-directifs avec des professionnels, donc j'en ai réalisé 11 au total. Donc j'ai essayé de varier les profils, donc il y a évidemment des bibliothèques, donc en université, en lecture publique, j'ai aussi interrogé des collègues à l'étranger pour voir ce qui pouvait se faire dans d'autres pays, et j'ai aussi profité de ces entretiens pour interroger des enseignants-chercheurs et des représentants d'associations étudiantes pour essayer d'avoir le panel le plus large possible pour multiplier les points de vue. Donc l'idée, c'était vraiment aussi d'essayer de dresser une liste des bonnes pratiques, d'éventuels conseils, d'éventuels dispositifs qui avaient pu être mis en place dans certains établissements pour essayer de les partager ensuite avec, donc à mon échelle évidemment, dans ce mémoire, avec la profession. Donc au niveau des enseignements, alors évidemment j'aurai pas assez de temps pour détailler l'ensemble des conclusions et des dispositifs que j'ai pu trouver dans ce mémoire, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. Ce que je voulais insister sur le fait que la situation est quand même très inégale en fonction des bibliothèques, ça l'enquête l'a prouvé assez largement. Donc elle est inégale à la fois sur l'offre qui existe déjà. Donc certaines bibliothèques ont déjà des projets très intéressants et très développés d'offres en lien avec YouTube, tandis que d'autres n'ont pas encore franchi le pas. Mais il y a aussi des inégalités qui sont assez fortes, notamment sur les ressources. Donc je pense aux ressources humaines qui sont allouées à ces projets, mais aussi évidemment à la question des moyens financiers et des ressources matérielles. Je prends l'exemple par exemple ici de la salle dans laquelle on se trouve. Elle est très bien équipée, on a des micros, l'éclairage, etc. Ce sont des investissements qui sont lourds. Et évidemment, toutes les bibliothèques, notamment les plus petites ou les moins bien dotées, ne peuvent évidemment pas se permettre d'avoir de tels investissements. Ou alors il faudrait vraiment que ça soit au cœur de leur projet. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ça a forcément une influence par la suite quand on propose des dispositifs. L'autre enseignement que je trouvais intéressant, c'était le décalage entre l'offre des contenus qui sont déjà proposés par des bibliothèques aujourd'hui et la demande réelle des publics. Et j'insiste bien sur la notion de public au pluriel, parce que s'il y a bien quelque chose que le questionnaire m'a permis de comprendre, c'était, on pouvait s'en douter évidemment, mais les publics étudiants ne forment pas une masse uniforme, mais ont évidemment des intérêts, des goûts, des particularités spécifiques à chaque groupe. Donc pour cette enquête, je me suis concentré principalement sur les questions disciplinaires, donc quelle discipline étudier les étudiants, et les questions de diplôme. Donc pour vous donner un exemple, par exemple, les étudiants en licence et les doctorants sont les plus friands de vulgarisation scientifique, par exemple, contrairement aux étudiants en master, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Un étudiant en licence, notamment en L1, il n'est pas forcément encore tout à fait sûr de son orientation, ou en tout cas de la spécialisation qu'il va poursuivre pour la suite de ses études. Donc une chaîne de vulgarisation scientifique, ça peut l'aider éventuellement à orienter son parcours, à vérifier si quelque chose peut l'intéresser ou pas. À l'inverse, les doctorants, ils ont beaucoup moins ce problème parce qu'ils sont beaucoup plus avancés, et il y a très peu de chances qu'un doctorant apprenne quelque chose en lien avec sa spécialité sur une vidéo YouTube. Généralement, c'est même plutôt eux, les youtubeurs. Par contre, les doctorants, ils partagent une caractéristique commune, c'est qu'ils ont une appétence de savoir, une curiosité intellectuelle, et justement, pour eux, très souvent, c'est un moyen de se détendre aussi, de regarder des vidéos de vulgarisation, mais d'une autre discipline que la leur. Mais dans tous les cas, c'est un besoin qu'ils ont exprimé. Donc l'important pour les bibliothèques, c'est d'être capable, en fait, avant de proposer quelque chose, de dépenser de l'argent, de l'effort, du temps, c'est d'abord de vérifier quelles sont les attentes des publics, quels sont les publics qui sont intéressés. Et en tous les cas, majoritairement, les publics, tout diplôme confondu, tout discipline confondue, sont plutôt intéressés par des contenus, que ce soit des tutos vidéo, de la valorisation des collections, la présentation des services. Il y a beaucoup de choses qui peuvent les intéresser. Et pour ça, je vous renvoie à la lecture du mémoire pour avoir plus d'informations. L'offre de production de contenu, donc la production par des bibliothécaires, donc l'exemple des tutoriels que je viens de citer par exemple, c'est quelque chose qui, à ma surprise, a été plutôt bien intégré par les bibliothécaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples de bibliothèques qui produisent eux-mêmes des vidéos et qui les proposent ensuite sur une chaîne YouTube ou qui les valorisent d'une autre façon. En revanche, la notion de curation, donc c'est-à-dire le fait de sélectionner, de hiérarchiser des ressources extérieures pour ensuite les proposer au public, c'est quelque chose qui finalement est assez peu développé, ce qui est à mon sens paradoxal, parce qu'en fait, si on se concentre un petit peu sur la façon dont, sur ce que ça représente la curation, c'est ce qu'on pourrait dire, en tout cas moi c'est le parti pris que j'ai pris, c'est de dire que c'est de la politique documentaire en fait. Quand on fait la politique documentaire, on sélectionne, on hiérarchise et on propose des ressources. Là la différence c'est que ce ne sont pas des ressources que l'on possède, que l'on paye pour mettre à disposition des publics. Donc pour une profession qui a une culture de réseau et de partage comme la nôtre, c'est assez surprenant. Et je pense que ça peut s'expliquer par la peur de l'inconnu, notamment pour un grand nombre de professionnels, c'est ce qui est ressorti en tout cas des entretiens. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille, parce qu'il faut reconnaître qu'en bibliothèque, on a une expertise documentaire, on est expert de la documentation, de l'information, et donc on est tout à fait capable d'évaluer une ressource, qu'elle soit dans un livre, dans un article, dans une base de données ou sur une vidéo YouTube. Et donc on est capable de sélectionner et de mettre à disposition ces ressources. Enfin, alors je vois le temps qui file. Une des raisons dont je viens d'exploiter, c'est la crainte de l'inconnu. Je pense aussi qu'il y a tout ce problème de masse d'informations très importante. Ça fait très pavlovien quand même. Cette masse d'informations qui est très importante sur YouTube, où on trouve de tout, du très bon, du très mauvais. Et pour répondre à ça, j'ai proposé plusieurs solutions, donc j'en présentais trois ici. Tout d'abord, on pourrait imaginer la création d'un référentiel national porté par le ministère ou un établissement pilote qui proposerait par exemple de sélectionner au niveau national par une équipe de volontaires des ressources qui seraient ensuite mises à la disposition de tout le monde, qui seraient jugées qualitatives. On pourrait aussi voir le même projet, mais d'un point de vue un peu moins ambitieux, porté par un établissement ou plusieurs, dans une équipe, sous la forme d'un groupe de travail, par exemple. Et enfin, l'approche qui me semble, moi, la plus intéressante, c'est celle de la co-construction avec nos usagers. Donc, c'est un terme qui est très à la mode, la co-construction, mais dans cette idée, ça serait, en fait, de mélanger la formation à l'évaluation de l'information qu'on peut proposer à nos étudiants, et donc à partir de vidéos YouTube, en leur proposant d'étudier comment lesquelles pourraient être intéressantes et pour quelles raisons. Et à partir de ce travail d'évaluation de l'information, lister les vidéos qui ont été jugées par la communauté pertinentes pour ensuite les proposer, les valoriser dans la bibliothèque. En tout cas, ce qui ressort de ce mémoire pour moi, c'est la question plus générale de l'évolution de nos métiers. On a donc un métier en plein changement et il est important pour nous, les bibliothécaires, d'accompagner ce changement. Mais pour ça, ça implique de gros efforts, notamment dans la formalisation des missions, dans la formation de nos usagers, de nos collègues aussi. Et surtout, il faut que ces projets s'intègrent dans un projet de service global et ne pas le considérer uniquement comme un gadget isolé. Et le travail de la direction à ce niveau-là, la bibliothèque, est fondamental. Voilà, je pense que j'ai un petit peu débordé de mon temps, donc je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça vous a intéressé. Je reste donc disponible pour échanger donc tout à l'heure dans les questions, ou tout au long de la journée, ou plus tard, et je vous remercie.
Merci beaucoup François, bravo aussi pour le temps. Je vois que vous êtes bien entraîné. Et je dois vous féliciter parce que je précise que l'ensemble des étudiants et des élèves conservateurs ont préparé ces présentations alors qu'ils sont en train de déménager, qu'ils vont prendre leur poste ou qu'ils ont des éléments un peu personnels de changement actuellement. Donc c'est d'autant plus, on est d'autant plus reconnaissants. Maintenant, je vais passer la parole à Alice de Mauroy, qui est diplômée du master sciences de l'information et des bibliothèques, parcours PBD. Actuellement, elle travaille à la bibliothèque municipale de Lyon, bibliothèque du Guesclin, dans le 3e, est en charge de la littérature adulte. Et Marion, non, Alice, pardon, excusez-moi, vous allez nous évoquer le bilan du modèle des biotech troisième lieu en France, modèle dépassé ou ajusté, point d'interrogation. Et votre directeur de mémoire, elle est une personne dans la salle qui s'appelle Christophe Evans, responsable du service études et recherche à la BPI et la directeur de la collection papier BPI également. Allez-y.
Bonjour à tous et à toutes et merci de m'avoir invitée. Donc moi, dans le cadre de mon Master 2, je devais écrire un mémoire et donc je me suis posé la question de ce qui m'intéressait et c'était le modèle des biotech troisième lieu qui m'avait beaucoup stimulée au départ et qui m'a aussi donné envie de travailler en bibliothèque. Mais je me posais quand même beaucoup de questions sur ce modèle. Parce que voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dites sur ce modèle, autant positif et négatif, et que je m'en demandais un peu ce qui s'était passé. Donc voilà, mon idée c'était de faire un bilan du modèle en France, voir ce qu'il en restait, ce qu'on avait fait de ce modèle après 13 ans de vie, parce que j'estimais qu'on avait justement le recul nécessaire, on avait appris de nos erreurs, vu de nouvelles solutions. De plus, comme le concept de base est le concept de Ray-Oldenburg, qui est un concept américain, et qu'en plus, après, le modèle, quand il est arrivé en France, il s'est aussi beaucoup inspiré de modèles nordiques ou de modèles anglo-saxons. J'estimais qu'il y avait eu des adaptations qui avaient été nécessaires pour l'adapter à la culture française. Et donc, voilà, je voulais savoir un peu comment ce modèle avait vécu face à la réalité. De plus, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'écrits sur tout ce qui était côté usager et qu'il y avait beaucoup moins de choses du point de vue des professionnels. Et donc voilà, je voulais essayer de changer de prisme pour m'intéresser voilà, à l'apport potentiel de ce métier pour les professionnels. Est-ce qu'il y avait eu de véritables innovations, de renouveau, ou est-ce que c'était juste un effet de mode en raison voilà, d'une certaine crise de la légitimité des bibliothèques à l'époque où le modèle avait émergé ? Donc voilà, je voulais vraiment voir la manière dont les professionnels s'étaient emparés du projet et au quotidien, ils l'avaient fait vivre aussi et peut-être même améliorer. Enfin, je voulais aussi questionner un peu l'avenir de ce modèle puisqu'il avait déjà 13 ans de vie. Et donc, en plus, avec tous les changements qu'on a connus ces dernières années avec la pandémie, les questionnements politiques et sociétaux, je voulais savoir un peu comment avait su s'adapter ou non ce modèle. Et donc, voilà, c'est pour ça que ma problématique, c'était là... Voilà, il y a eu un petit problème. Donc voilà, en plus, on a pu voir qu'il y avait donc beaucoup d'établissements qui s'étaient emparés de ce... certains établissements qui s'étaient emparés de ce modèle et qui avaient eu des succès divers et variés, qui s'en étaient intéressés de diverses manières. Et donc voilà, je voulais savoir comment les choses étaient appréhendées du côté des professionnels concernés et quelles avaient été les incidences sur leurs aspects métiers. Donc pour ma méthodologie, j'ai d'abord fait des lectures très théoriques générales pour m'inspirer un peu de ce qui était déjà écrit et j'ai fait un entretien préparatoire avec Raphaël Gilbert qui travaille sur le concept. Ensuite, j'ai fait des lectures plus spécifiques, notamment des lectures autour de ce qu'avait écrit Jane Jacobs et Ray-Oldenburg qui étaient au cœur du concept de base parce que voilà, je voulais vraiment revenir sur la définition qui en fait est assez complexe puisque le concept de base est très flou et très souple. Et donc voilà, je voulais revenir sur un périmètre clair. Ensuite, j'ai fait des entretiens semi-directifs avec des responsables de bibliothèque troisième lieu. J'ai fait 6 entretiens qui ont eu une durée entre 45 minutes et 1h30 environ. Et j'ai interrogé donc 4 femmes, Sophie Roussier, Bénédicte Froco, Raphaël Gilbert et Sylvie Terrier. Et 2 hommes, Jérôme Trio et Alexandre Massip. Donc voilà, je voulais vraiment connaître leur vision du modèle de bibliothèque troisième lieu, leur gestion quotidienne, les ajustements possibles qu'ils avaient pu faire et les solutions qu'ils avaient trouvées aux divers problèmes qui s'étaient posés à eux et qui n'étaient peut-être pas pensés par notamment le mémoire de Mathilde Servet qui a abordé la question du modèle en France et leur conception pour eux de ce modèle pour l'avenir. Enfin, j'ai fait des lectures plus spécifiques pour un peu colmater les petits points que je n'avais pas forcément vus. Ce que je regrette un peu, c'est que je n'ai pas réussi à avoir de bilan de retour d'expérience très objectif, parce qu'en fait, les bilans d'activité des bibliothèques étaient beaucoup trop généraux. Et je n'ai pas non plus eu le temps, ni la possibilité d'aller en bibliothèque, dans plusieurs bibliothèques troisième lieu, pour faire plus d'observations du lieu sur plusieurs heures, pour voir comment ils vivaient au quotidien. Donc, pour moi, il y a plusieurs résultats. Hop, voilà. Pour moi, la chose la primordiale qui a été dite, c'est qu'en fait, le modèle de bibliothèque troisième lieu était en fait un moteur de dynamisme et de changement pour les professionnels de bibliothèque. Il a permis en fait de cristalliser de nombreux points qui existaient déjà, qui était déjà depuis longtemps discuté, notamment la question des usagers qui devait être au centre du métier, la mission sociale des bibliothèques, l'importance du numérique aussi qui se développait. Donc en fait, il a apporté de l'innovation. Il n'a pas révolutionné tout, il a cristallisé des questions qui étaient déjà débattues. Le mémoire de Mathilde Servet a apporté et adapté le concept des bibliothèques troisième lieu en France, et il a donné donc cette vision très stimulante qui a redonné aussi parfois de l'envie aux professionnels de se questionner, se moderniser. Mais dès le début, le concept de Réaulx-Dimbourg, comme je le disais tout à l'heure, avait une difficulté au niveau du cadre du concept, ce qui était et du modèle qui en a découlé par la suite. De plus, la position autant de Réaulx-Dimbourg que de Mathilde Servet sont des positions très militantes dans leurs écrits, ce qui est très passionnant, mais qui parfois gomme que certains points qui ont pu être un peu impensés, certaines limites. Et donc voilà, c'est un peu ce qui m'a questionnée au départ dans mon mémoire, et c'est la grosse première partie de définition. Voilà, pour essayer de retrouver un cadre un peu plus précis, parce que voilà, cette définition très large et plastique pouvait gêner, en fait, quand on vraiment cherche à opérationnaliser le modèle dans la réalité. Donc il y a eu la nécessité de faire de nombreux ajustements dans chaque établissement, parce que donc au départ, ce qu'on a pu voir aussi, c'était que au départ, toutes ces possibilités très stimulantes ont eu pour conséquence néfaste un renfermement des bibliothèques sur elles-mêmes, puisqu'il y avait l'idée qu'on pourrait tout faire, que ce serait génial, qu'on serait des couteaux suisses. Sauf qu'en vrai, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas possible, tout simplement. On ne peut pas tout faire, on n'a pas 1000 métiers en un métier. Et en plus, il y avait même chez certains professionnels l'idée qu'en fait, leur métier se diluait. Ils perdaient leur métier de base. Et donc, en fait, il ne faut pas oublier que, vraiment, au cœur même du concept de base, la bibliothèque de troisième lieu, dans le concept de troisième lieu, c'est l'idée d'écosystème. Et donc, voilà, la bibliothèque troisième lieu, c'est un élément au sein d'un écosystème global avec lequel donc, elle doit s'articuler, elle doit pouvoir mutualiser les compétences qui sont sur son territoire pour répondre aux besoins spécifiques de celui-ci. Et donc voilà, ne pas sortir non plus de ce qui n'est pas de son fait, aller plutôt chercher des partenaires avec qui travailler avec. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier dans le terme bibliothèque troisième lieu, le terme bibliothèque, et que c'est là notre force. Il faut garder cette identité culturelle et cette importance donnée à la lecture publique et à la gestion de l'information, parce que c'est là qu'il y a la plus-value des bibliothécaires. C'est dans cette capacité à trouver, à donner à voir et à transmettre la bonne information à la bonne personne qui en a besoin. Un autre point aussi, c'était dans la vie quotidienne des troisièmes lieux, c'était l'importance donnée à l'accueil et à la médiation, qui sont devenus vraiment des points de compétences fortement demandés. Et donc, ça a changé aussi les recrutements, où les savoir-être et la diversité des profils étaient beaucoup plus valorisés dans ces lieux que dans d'autres bibliothèques plus classiques. Ce qui aussi m'a posé à questionner un peu les concours ou la manière dont ils sont faits, qui parfois peuvent pousser justement à une restriction un peu, à une uniformisation des profils. Et aussi, on peut peut-être perdre certains profils un peu trop variés ou qui sortent un peu trop de nos professions et qui pourraient nous apporter beaucoup, ou aussi des profils plus étrangers aussi. Donc voilà, ça demande, un troisième lieu, ça demande beaucoup de souplesse et de plasticité pour les professionnels, pour être en adéquation avec leur territoire et avec leurs usagers et ses évolutions. Et donc, ça demande aussi un changement organisationnel global d'un fonctionnement d'une bibliothèque, puisque les organigrammes très figés avec des grands pôles ne fonctionnent pas trop sur ce genre de site. En fait, il faut une base d'accueil et de médiation avec des spécialisations et beaucoup d'échanges entre les équipes pour que ça fonctionne vraiment. Il faut aussi mettre en application les théories de l'accueil qu'on applique aux usagers au sein même de l'équipe. Oui. Pour voilà, créer cette ambiance chaleureuse et trouver cet équilibre. Et donc, vous aussi pensez beaucoup aux forces qu'on donne, que la tutelle donne pour trouver le bon équilibre et pouvoir faire ce qu'on souhaite. Et donc, la question de la conflictualité aussi était très importante, puisqu'elle n'était pas forcément très pensée au départ. Et elle est nécessaire. Et donc, il faut parfois rétablir des règles, des chartes pour avoir un cadre clair et précis et communiquer aussi avec les usagers sur ça pour donner du sens à la règle. Enfin, pour l'avenir, l'idée, c'était que, enfin, pour certains bibliothécaires, on est déjà au-delà du troisième lieu avec des questions de co-construction ou du CARE sur la question, par exemple, notamment de prendre en compte la vulnérabilité de chacun. Et enfin, pour d'autres, elle est peut-être juste à ajuster, à encore développer avec des questions, notamment comme le développement durable ou l'OMI, qui sont des questions intéressantes pour certains bibliothécaires. Voilà.
Merci beaucoup Alice. Pendant que je jongle avec les différents éléments, c'est bon. Hop. Je vais donner la parole à Marianne Voldoir qui a la lourde tâche de terminer cette séquence de présentation et donc ensuite d'ouvrir vers les questions. Donc j'espère que vous aurez une question pour chacun de nos étudiants ou de nos élèves. Marianne Voldoir est diplômée du master sciences de l'information et des bibliothèques, parcours PBD. Elle termine sa formation actuellement d'assistant bibliothécaire à Médiat Rhône-Alpes dans un DU. Elle est actuellement vacataire dans le réseau des bibliothèques de Villeurbanne et elle est lauréate du concours BIBAS. Et pendant son master à l'ENSIB, elle a travaillé sur les microfolies dans les médiathèques. Elle va nous expliquer de quoi il s'agit. Sa directrice de mémoire est Suzanne Kovacs, qui est professeure des sciences de l'information et de la communication à l'ENSIB, et également depuis peu directrice de la collection papier aux presses de l'ENSIB. À vous, Marianne.
Alors bonjour à toutes et à tous. Merci à l'ENSIB et à la BPI de m'accueillir aujourd'hui pour présenter mon mémoire. J'ai choisi de travailler sur les microfolies en bibliothèque parce qu'au cours d'un stage, j'ai pu observer l'installation d'une microfolie dans une bibliothèque du sud de la région parisienne, à Fontenay-aux-Roses très précisément. Et je me suis demandé, qu'est-ce que c'est exactement? Alors peut-être avez-vous déjà vu ce logo rouge assez reconnaissable, ou peut-être avez-vous déjà entendu ce mot microfolie sans vraiment savoir ce qui se cachait derrière. Alors je vais tenter de l'expliquer aujourd'hui. Le projet Microfolie, c'est un projet qui a été lancé par le ministère de la Culture et le Parc de la Villette avec son président Didier Fusillé en 2017. Donc, pour expliquer le mot microfolie, étymologiquement, cela fait référence à des petites structures originales architecturales, des espèces de maisons, en fait, construites par l'architecte du parc de la Villette et qui sont disposées un petit peu partout dans le parc et reconnaissables à leur structure rouge et un peu cubique. Et leur vocation, c'est de recueillir divers événements culturels. Pour en revenir sur le projet, ils souhaitent diffuser, en fait, des microfolies sur l'ensemble du territoire français, pour en faire des lieux de vie, mais aussi des lieux de culture de proximité. Donc pour expliquer globalement, une microfolie complète, c'est à la fois un musée numérique qui se présente sous forme d'un catalogue numérique d'œuvres de musées nationaux qui ont été numérisées, mais c'est aussi un Fab Lab, un espace de réalité virtuelle, une scène et d'un espace de convivialité type café. Donc ça, c'est la microfolie idéale, on va dire. L'objectif de ce dispositif, c'est d'aller à la rencontre des publics enclavés, éloignés des grands centres culturels. Et le but, c'est éveiller leur curiosité, lutter contre le sentiment d'illégitimité à l'égard de la culture et d'encourager à terme la visite des musées, mais aussi de promouvoir la créativité des individus, tout en mettant à l'honneur l'outil numérique. C'est un petit peu la descendante des maisons de la culture d'André Malraux, pour caricaturer. Et du coup, on trouve à l'heure actuelle des microfolies dans des lieux désaffectés, des lieux culturels comme des MJC, des anciens cinémas, parfois des friches industrielles aussi, mais on en trouve aussi dans des bibliothèques. Alors à l'époque où j'ai fait mon mémoire, il y en avait exactement 26 qui comprenaient une microfolie dans leur mur. Dans la littérature professionnelle, en fait, les études portant sur les microfolies dans les bibliothèques précisément sont rares parce que le sujet était encore trop actuel et on avait encore un manque de recul assez évident. Je vais citer quand même l'article de Victor Kershawi qui est le premier à poser la question de l'implantation de ce dispositif dans les bibliothèques et j'ai pris la suite par cette étude-là. Et mes premières questions ont été d'interroger la verticalité de ce dispositif et son adaptabilité aux bibliothèques où il va s'installer. Verticalité d'abord parce qu'il est émis par la Villette, qui propose un programme culturel et des modèles de médiation type, qui peuvent être peut-être figés. Les collections numériques, donc, comme je l'ai dit, sont issues des grands musées parisiens, et les contenus accessibles sont sélectionnés au préalable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en apporter de nouveau en tant que professionnel des bibliothèques. Donc la microfolie s'est présentée comme un kit culturel qui est prêt à l'emploi par les professionnels des bibliothèques. Je questionne aussi son adaptabilité, donc. Est-ce que ce kit est adaptable selon la diversité des établissements et aussi des territoires dans lesquels ils s'installent. Comment on peut intégrer une microfolie à un projet de service déjà existant? Est-ce que ça peut faire concurrence avec d'autres projets d'action culturelle? Les agents ont-ils une marge de création? Et enfin, pour répondre à son objectif premier, est-ce qu'il attire vraiment les publics éloignés de la culture et de la médiathèque? Donc ma problématique, vous voulez questionner tout ça, qu'est-ce que ça entraîne cette implantation sur l'organisation et l'identité d'une bibliothèque, donc dans les espaces, dans les services, dans les collections, mais aussi dans l'organisation du travail des agents jusqu'à la définition de leur métier. Dans ce mémoire, donc, j'ai eu à cœur de donner la parole aux ressentis des bibliothécaires, qu'ils soient responsables, mais aussi médiateurs culturels chargés de faire vivre cette implantation. Alors, mon enquête s'est basée sur un questionnaire directif et semi-directif envoyé à 26 établissements qui n'a obtenu malheureusement que 9 réponses. Du fait, je pense, du manque de disponibilité des personnels contactés et aussi du manque de recul flagrant que certains établissements pouvaient avoir. Donc j'ai voulu compléter ce questionnaire par des entretiens formels et informels, donc soit sur place, soit par téléphone, et qui ont été tout à fait enrichissants. Donc cette enquête, du coup, comporte des biais du fait de son actualité, de son peu de réponses. Mais j'ai tenté toutefois de varier le profil des répondants et d'essayer d'observer sur place comment fonctionnait une microfolie en bibliothèque. Donc je me suis rendue sur place à la médiathèque de Fontenay-aux-Roses, qui a été mon terrain d'enquête, pour pouvoir voir durant une journée les animations, la posture des professionnels et la posture aussi des publics. Alors voici les résultats que j'ai pu tirer de cette enquête. Alors tout d'abord des avantages flagrants et ensuite des points à creuser, je ne vais pas dire inconvénients du fait du manque de recul. Ce qui serait positif, c'est que les élus sont en général assez séduits par l'idée d'implanter une microfolie dans une médiathèque, parce que c'est un moyen pour eux de donner une certaine forme de communication renouvelée pour l'image de leur politique culturelle, mais aussi pour l'image de la médiathèque. Parce qu'on verra souvent que ce logo des microfolies revient aussi dans le cadre des médiathèques. Donc c'est une identité qui s'affiche en plus de l'identité de la ville et du service. Et la capacité de création des équipes est malgré tout possible, malgré un contenu qui peut être assez figé, c'est-à-dire que les bibliothécaires peuvent créer des playlists à partir d'œuvres et mener des animations à partir de celles-ci. La microfolie est aussi un moyen assez efficace, ça s'est vu dans mon terrain d'enquête, de renforcer ou de créer des partenariats avec toutes les structures sociales, scolaires et culturelles. Ce qui est le plus flagrant, c'est que c'est un outil très bien pour les accueils de classe. Ça permet vraiment un renouvellement des accueils de classe et une approche culturelle assez intéressante et numérique aussi pour les publics scolaires. Mais le problème, pour rebondir là-dessus, c'est que ça s'adresse surtout à des publics captifs ou des publics de personnes déjà convaincues et intéressées par les sujets culturels qui sont abordés. Donc, on peut se dire, est-ce que finalement ça va attirer des publics éloignés de la bibliothèque? Ça, on ne sait pas, on manque de recul encore, mais en tout cas, dans l'enquête, ils n'ont pas vu d'accroissement soudain de fréquentation par des nouveaux publics. On peut voir aussi que la Villette gère seule les contenus. Donc ça veut dire que les bibliothécaires souhaitant faire des partenariats avec les musées locaux et voulant intégrer les collections de ces musées locaux à ce grand catalogue national, tout cela n'est pas encore possible en fait. C'est vraiment la Villette qui le gère. Donc il peut y avoir un délai, un décalage entre les volontés des professionnels et ce qui leur est apporté. Et surtout, alors je viens sur le besoin de formation des personnels en médiation et en histoire de l'art. C'est un point assez important car c'était le cœur de toutes les craintes des professionnels que j'ai pu avoir en entretien, c'était la vision de on nous demande d'être des guides de musée, d'être spécialistes en histoire de l'art, alors que beaucoup d'entre nous n'ont jamais été formés à ça, ni aux techniques de médiation. Parfois, la microfolie est gérée par des médiateurs culturels, mais l'enquête montre que c'est souvent des bibliothécaires titulaires qui s'en chargent, donc avec une redéfinition complète de leur fiche de poste, de leur organisation de travail, ce qui peut générer de nombreuses craintes. Et enfin, il s'agit d'un dispositif qui est coûteux. Malgré une aide de la Villette pour la première année d'installation, c'est quelque chose qui peut peser sur le budget de fonctionnement. Alors, le prix de base, c'était 15 000 euros de mémoire. Il faudra revoir dans le mémoire. Je vous renvoie dans le mémoire pour ça. Et du coup, pour l'investissement, ça peut être intéressant, mais pour le budget de fonctionnement, là, ça commence à peser. Donc, il faut vraiment se poser la question d'est-ce qu'on en, est-ce qu'on a les moyens de l'avoir. Donc, j'en profite pour aller vers ma conclusion. Donc, malgré la satisfaction générale, on voit qu'il y a quand même quelques petits points à creuser. Et des alternatives existent. Dans le cas où on voudrait souligner l'importance de l'art à direction des publics, les fonds d'art locaux, les artobus, les artothèques sont aussi des acteurs déjà existants que l'on peut nommer. Et enfin, je vais citer aussi le rôle des bibliothèques départementales qui prêtent du matériel et dont les possibilités sont infinies et moins coûteuses. Voilà, je vais arrêter ici. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour toute question.
Merci beaucoup Marianne. Donc comme l'ensemble des élèves et des étudiants ici présents l'ont déjà dit, ils sont prêts à répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, des remarques, vous souhaitez partager des réflexions, les thématiques ont été très variées sur la question de l'obsolescence des espaces patrimoine, sur la santé publique en bibliothèque universitaire. Ah, une question.
Justement, sur ce sujet-là, ouais. Tim, est-ce que tu as eu des retours des bibliothèques patrimoniales à la ville de Paris ?
Pas du tout, parce qu'en fait, moi, je me suis... j'ai fait un choix d'aller sur des bibliothèques de ville d'abord, en fait, plutôt qu'ils étaient, BMC. Je me suis d'abord tourné vers les bibliothèques municipales classées. Pour en fait, moi j'avais pas de connaissance, il y avait un particularisme déjà sur leur fonctionnement. C'est d'ailleurs justement, c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire qu'il y a des avantages et des désavantages, il y a pas de règle d'or. Donc non, je me suis pas interrogé, j'ai pas interrogé de bibliothèque de la ville de Paris ou de Lyon par exemple. Pourquoi c'était, il y avait une réponse à apporter ou non?
Non, mais je pense qu'il y aura un boulot à faire dessus.
Ok,
non,
mais bien sûr.
Ouais, vraiment. En très complémentarité, bien. Justement, avec les bibliothèques de près, on va dire.
Et ouais, je peux savoir pourquoi, parce que du coup, moi, je...
Parce que j'ai bossé en patrimonial et que je pense que les espaces d'études, il y a un vrai enjeu là-dessus. En
ok,
fait.
Très bien.
Voilà.
Merci.
Oui, sur la question du patrimonial encore, de mon peu d'expérience en bibliothèque patrimoniale, à Grenoble personnellement, j'ai vu l'utilisation de la mise en avant de documents pour ramener des gens en espace d'études, que ça fonctionnait assez bien au final, qu'il y avait des gens qui venaient visiter parce que on leur mettait des documents en avant ou parce que notamment c'était les vendredis midi, ils faisaient une présentation d'un nouveau document, d'une quelque chose comme ça avec une petite médiation. Est-ce que vous avez vu ce genre de contenu, ce genre de solutions proposées dans d'autres bibliothèques?
En fait, c'est fait partout. Enfin, je pense quasiment partout dans toutes les bibliothèques que j'ai interrogées, il y a ces valorisations qui sont faites et moi-même j'ai été amené à les faire et c'est là en fait où il y a je pense un côté un peu ingrat, c'est que déjà il y a des villes qui sont défavorisées d'office, c'est les villes où il n'y a pas d'université. Il y a une différence énorme. Donc à Grenoble, j'avais interrogé, je sais plus, j'ai oublié le prénom de la personne. Elle m'avait expliqué en effet ce genre d'animation. Et moi, je le voyais à Bourg-en-Bresse, qui est une toute petite université, vraiment. Enfin, ou même dans des villes comme Moulins ou autres, qui sont des très beaux espaces patrimoniaux, qui ont été redessinés très récemment. Il y a une vraie difficulté, en fait, à attirer. Et le problème qui peut aussi, euh, qui se trouve en fait avec ces valorisations que tout le monde a forcément à connaissance, c'est qu'on ne peut pas déplacer comme on veut un document patrimonial. Il y a toute la question de la manipulation, de l'exposition à la lumière, de la température, et ça, c'est quelque chose, il y a plein d'espaces où ce n'est pas possible du tout. Et du coup, bah, ça, en fait, ça brise le truc de fait. Et moi, j'ai entendu, en fait, pour terminer, j'ai entendu plusieurs choses sur celui-là. Il y a des bibliothécaires qui sont très contents, justement, qu'on vienne aux animations, et ça fait vivre l'espace. Et il y en a d'autres qui disent, mais non, parce que du coup, oui, nous, une fois par mois, on va voir nos animations, c'est trop bien. Mais le reste du temps, bah, on est là, on attend. Alors, ils ont plein de travail à faire. Ils ont plein de travail à faire. Et en plus, il y a tous les travaux du plan national de signalement, tout ça. Donc, des mises à disposition de bibliothèques, de personnes qui vont venir travailler sur le fond. Donc, tout ça, ça prend du temps. Mais au final, il y a d'autres choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et donc parfois, ouais, ça peut être. En fait, on en vient dans certains lieux à ne plus faire quasiment de services publics directs. Parce que ce n'est pas forcément obligatoire, hein, selon les bibliothèques. Il y a des bibliothécaires patrimoniaux qui ne vont pas faire de services publics. Et donc, en fait, voilà, il y a un peu de déception sur ce côté-là. J'espère avoir répondu à peu près correctement. Merci.
D'autres interventions ? Sur les autres sujets également, YouTube en bibliothèque, santé mentale, microfolie.
Bonjour. J'ai une question pour Alexandre. Elle est un petit peu double. Est-ce que votre étude a pu mettre en évidence des pistes de collaboration entre les bibliothèques universitaires et les services de santé étudiants ? Parce que je pense que c'est une entrée assez importante en termes de ressources pour les publics qui fréquentent les bibliothèques universitaires. Et ma deuxième question, c'est par rapport à un retour d'expérience, donc là où je travaille, à la bibliothèque universitaire d'Edgar Morin de Villetaneuse, où on a pu inaugurer un rayon de prévention santé mentale à destination des publics. Il semble apparaître qu'il y ait dans les emprunteurs un pourcentage non négligeable d'emprunteurs qui ne sont pas étudiants, mais qui peuvent être personnels BIATS, dont des bibliothécaires, ou voire enseignants ou lecteurs extérieurs. Est-ce que dans votre mémoire, par rapport à donc, la prise en compte des publics de la bibliothèque universitaire, est-ce que vous avez vu quelque chose apparaître en termes de publics non étudiants ?
Alors, pour le premier point, quand j'ai interrogé les collègues sur les actions qu'ils pouvaient mener dans leur bibliothèque, et notamment les partenariats qu'ils avaient menés avec les autres services universitaires, un des premiers, spontanément, le premier service qui arrivait, c'était le service de santé universitaire, qui maintenant, il y a eu une réforme assez récente qui fait que ces services-là s'ouvrent sur la communauté étudiantes et non plus seulement sur l'université. Donc il y a certaines écoles en plus qui font des partenariats avec ces CSU hors du cadre universitaire. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un grand plan pour essayer quand même d'harmoniser l'offre qui peut être faite à l'échelle des universités. Donc c'est notamment on essaye de créer un modèle de plus en plus fréquent qui sont les étudiants relais santé. Donc ce sont des étudiants rémunérés quelques heures par semaine pour faire de la prévention auprès de leurs camarades, pour aussi repérer des situations de détresse. Et donc de plus en plus de bibliothèques aujourd'hui intègrent la présence de ces étudiants dans les espaces pour des stands de prévention qui sont parfois animés avec des bibliothécaires sur des sujets comme la littératie en santé, etc. Donc ça se développe beaucoup. Et dans un deuxième temps, une forme d'interconnaissance entre ces services qui parfois ne se parlaient jamais. Donc si on prend le cas de Lyon par exemple, le SSU de Lyon a assez bien vu la pertinence de faire stand et d'aller à chaque fois qu'il y avait des animations un peu autour de la santé sur le lieu même, parce que la BU reste quand même un lieu central dans le campus. Parfois c'est pas le cas des SSU, donc ils voient l'intérêt de mener ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que ces institutions sont quand même sous-dimensionnées. Il y a à peu près un psychologue universitaire pour 15 000 étudiants. Voilà, c'est très très peu. Et on pourrait dire que c'est tellement insuffisant que, en fait, rediriger forcément vers le CSU, ça provoque aussi un engorgement de ces services-là. Donc il y a toute une problématique derrière. Et pour l'autre point, donc sur les fonds d'ouvrage, on va dire, d'auto-aide spécialisée, là, il y a assez peu de chiffres. C'est compliqué. Donc moi, ce n'est pas une question que j'ai vraiment creusée jusqu'au bout, parce qu'un certain nombre de professionnels m'ont dit « Mais en fait, nous, ça ne marche pas. ça ne marche pas et on a des problèmes à faire de la médiation de ces fonds-là. Donc en fait, si on ne fait pas de médiation, ça ne sort pas du tout. Donc peut-être qu'il y a aussi des problématiques de mise en avant de ces ouvrages-là. Et donc, moi, j'ai pas de chiffres à donner sur qui est public de ce genre d'ouvrage. Parfois, il y a des universités qui arrivent à faire des partenariats assez solides avec des UFR, par exemple les UFR de psycho. Et donc, à ce moment-là, ça peut être des étudiants en STAPS qui s'intéressent à ces questions-là, ça peut être des étudiants en psycho, mais je n'ai pas plus de détails et de chiffres à donner.
Oui, bonjour Alexandre. On s'était croisé à la BPI. Moi, j'ai une question un peu provoque. Quand on est un jeune étudiant, élève, qu'on arrive en BU avec une question sur la santé mentale, quelles sont les réactions auxquelles on peut être confronté? Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez eu des bonnes surprises? Alors, ce qui sous-tend un peu cette question, c'est tout le rapport à la qualité de l'accueil. Vous avez cité tout à l'heure la question des handicaps invisibles. Donc est-ce que vous avez eu des heureuses surprises ou au contraire, vous êtes tombé des fois dans des marasmes dus au manque de moyens, au manque de sensibilisation, tout ce qu'on peut.
Alors, il y a plusieurs choses. Donc, sur les 115 répondants, donc ça représentait à peu près 43 structures documentaires, donc ce qui est plutôt pas mal pour l'enquête Calicanti. Je prétends pas du tout à la représentativité, surtout que la plupart des répondants en fait étaient des cadres qui étaient chargés de l'élaboration des services publics, donc peut-être des personnes plus sensibilisées que le reste des personnels, etc. Donc je prétends pas que ce que je vais dire là est représentatif de la profession, mais c'est globalement des professionnels qui repèrent assez bien l'état de santé, qui repèrent assez bien que les étudiants ne sont pas très bien en point, qu'ils sont au moins fatigués. Certains collègues m'ont dit « mais enfin, on en parle ». Certains collègues m'ont dit « moi, je ne découvre pas que la bibliothèque est un lieu de sociabilité, je ne découvre pas que les étudiants sont mal en point, mais c'est peut-être qu'avec la crise sanitaire, on commence enfin à en parler. Donc c'est peut-être une prise de parole, on dit une ouverture de la parole, mais une ouverture de l'attention. À côté de ça, on a un certain nombre de professionnels qui sont « non, mais c'est pas mon rôle, parce que moi, je suis pas soignant, je sais pas faire ça, c'est pas mon rôle de poser un diagnostic ». Alors là, on va être clair, c'est pas notre but non plus. Le but, c'est plutôt, s'il y a une situation de détresse, comment on agit. Un certain nombre de collègues aussi qui me disent « mais moi, j'ai pas de personnes qui ont un handicap psychique dans ma bibliothèque ». Ça n'existe pas. À l'université, ça ne peut pas exister. C'est peut-être une méconnaissance encore des handicaps invisibilisés. Mais c'était assez marginal quand même dans les réponses. La réponse qui était la plus flagrante, c'était « mais par où commencer en fait ?» Donc c'est peut-être la question en général du handicap, c'est par où commencer à chaque fois. Alors oui, déjà, notre bibliothèque, même pas les fauteuils roulants, ils peuvent... c'est même pas adapté pour les PMR, donc est-ce que ça serait adapté pour les personnes qui ont un handicap psychique? Je sais même pas par où commencer. Je pense que la question qui a été le plus souvent soulevée, c'est la question de la formation. Et parfois, ça vient aussi par quelque chose qui est de l'ordre du stigmate, c'est-à-dire nous, c'est les relations conflictuelles qui nous énervent. Donc comment on agit? Donc une option, ça peut être aller vers la gestion de conflits. Et d'autres BU font le choix d'aller plutôt vers... Donc, par exemple, aussi la BPI fait le choix d'aller plutôt vers les acteurs du monde psychosocial pour dire, c'est pas que du conflit, c'est aussi des formes d'interaction qui nous sont étrangères, et donc c'est intéressant de se former.
On prend une dernière question.
Oui, c'était une question sur les troisièmes lieux, bibliothèque troisième lieu. Une question vraiment très naïve. Comment on identifie ces bibliothèques troisième lieu? Est-ce qu'elles existent? Elles sont labellisées? Est-ce qu'elles se... Enfin, comment on les cartographie? Merci.
C'était justement un de mes problèmes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de labellisation et qu'en fait, c'est ce que je disais sur le problème de définition au départ. C'est que le concept de troisième lieu et après de bibliothèque troisième lieu... comme il est basé sur un concept très pauvre sociologiquement parlant, en fait tout peut devenir un peu troisième lieu pour peu qu'on déjà on l'étiquette comme cela, parce que c'est aussi une volonté parfois qui a été politique de la structure de s'étiqueter troisième lieu, et donc après c'est de voir ce qui avait vraiment été fait derrière. Et après, il y en a qui font des choses qui sont de l'ordre du troisième lieu, mais qui ne le revendiquent pas. Donc voilà, c'est trouver un peu l'équilibre entre tout ça. Et en fait, ce qui ressort un peu, c'est que tout peut être troisième lieu parce que c'est un peu pauvre. Mais qu'il faut vraiment que ce soit pensé derrière, que ce soit structuré, organisé, pour que ce soit vraiment efficace, en fait. Donc voilà, c'est pas hyper satisfaisant comme réponse. Mais voilà, c'était un de mes gros problèmes, notamment pour trouver des personnes avec qui parler. Parce que... Puis en plus, il y a encore des personnes qui sont réticentes et qui, justement, ont l'effet inverse de dire « bah, moi, j'estime que c'est un peu nul comme concept et je veux pas de ça. » Donc voilà, il fallait trouver un peu cet équilibre-là.
Une question qui était une personne qui s'était positionnée. Et puis Christophe.
Oui, merci. C'était pour Monsieur Carpentier, la première présentation. Voilà, à l'heure actuelle, il y a vraiment une tendance à la renaissance, on peut dire, des salles patrimoniales, dont par exemple la rénovation de la salle Richelieu est vraiment très emblématique. On peut trouver des salles patrimoniales qui sont devenues vraiment un écrin pour la médiathèque, un peu aux quatre coins de France, par exemple la bibliothèque André Malraux à Strasbourg, la médiathèque de Perpignan, et puis aussi la salle patrimoniale de la bibliothèque de Dunkerque, qui vraiment sont des écrins de la médiathèque, qui sont une façon de mettre encore plus en valeur le service de lecture publique et le patrimoine de la médiathèque. Comment est-ce que vous intégrez cette idée-là à votre réflexion ?
Mais de toute façon, c'était le cas aussi dans ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'il y a la bibliothèque de... c'est de Chambéry également qui a été repensé il y a déjà assez longtemps dans ce sens-là aussi. À Troyes, c'est également le cas. Donc j'ai aussi en fait eu des exemples très bons d'espaces qui sont beaux. Enfin, ils ont été refaits, ils sont beaux, où il y a un usage, mais ça reste un point qui a été. C'est pas la question de la beauté ou de la gestion de l'espace en tant que tel qui posait problème, c'est l'état de l'utilisation. Et même dans ces espaces-là qui ont été refaits, repensés, avec une démarche nouvelle, il y a en fait une forme, en fait pas forcément de déception, mais d'insatisfaction ou de réadaptation à faire. Par exemple, c'est la fréquentation unique par l'étudiant dans certains lieux. Il y a des bibliothécaires qui m'ont dit que ça leur posait aucun problème, qu'ils étaient super contents qu'il y ait des étudiants qui viennent étudier dans leur espace patrimonial. Mais c'est pas comme ça qu'ils l'ont pensé. C'est pas comme ça que c'est pensé, en fait. Parce qu'il y a un mobilier à part qui, à côté, en plus, du coup, a un coût et qui est pas utilisé. Parce qu'il y a tout ce genre de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc c'est en effet c'est une ouverture qui se fait, ça je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi en soi j'ai pas forcément d'avis tranché. Moi je me reporte à ce qui m'a été livré comme information et ça reste quand même quelque chose où on tend quand même à attendre en fait qu'il se passe autre chose que de l'étude qui n'a plus à voir avec le fond. Parce que du coup, l'étude, elle se fait sur son document de révision, c'est très bien. Mais à côté, il y a quelque chose qui ne sort plus, qui est là, qui est à côté. Il y a un espace pour, mais il est consulté à distance. C'est un énorme paradoxe, en fait, qui du coup est tenté de passer... Mais oui, après, bien sûr, c'est justement la réflexion qu'il y a dans plein de grosses bibliothèques. Donc moi, ces exemples-là, je les connaissais pas, je les ai pas interrogés, mais j'ai vu le cas à Chambéry, à Troyes, à Besançon et à Clermont-Ferrand, c'est ce qu'ils sont en train de faire, de réunir en fait la bibliothèque municipale avec la bibliothèque patrimoniale, parce que là, c'est des bibliothèques à part qui, pareil, ont un problème, en fait, le problème de découpage en fait du public, c'est-à-dire que c'est le même réseau, mais c'est pas du tout le même public, et il y a un éloignement en plus, du coup, pour le travail en commun, qui a tendance à beaucoup se développer. Il y a un vrai souci autour de ça. Donc voilà.
Moi, j'ai une question très pratique à propos des microfolies, parce qu'il faut quand même parler des microfolies aussi. Vous parliez à juste titre du rôle des bibliothèques départementales, et moi, j'ai le souvenir, en ayant visité la bibliothèque départementale de la Moselle, de les avoir entendus dire, ils avaient fait l'acquisition d'une microfolie, Et vous parliez des problèmes de fonctionnement, notamment. Ils avaient des difficultés parfois à la rendre itinérante, hein, parce qu'ils la font circuler. notamment pour la charger tout simplement dans un camion et la protéger. Et la... Est-ce que vous avez vu d'autres témoignages de ce genre?
Alors mon mémoire ne parle pas des microfolies itinérantes parce que j'ai pas eu encore l'occasion d'en voir. Cela dit, j'ai vu des vidéos de promotion de cette forme de microfolie itinérante dont vous parlez, et effectivement c'est présenté comme quelque chose qui est rapide et facile à mettre en place, mais c'est quand même un écran géant qui se déploie en plein air, c'est beaucoup de matériel informatique et numérique qui demande des compétences quand même logistiques et informatiques, et c'est un coût, oui, de fonctionnement. J'ai pas parlé, mais il y a aussi des tablettes, par exemple. Il y a aussi 20 tablettes en plus d'un écran numérique. Donc tout ça, ça demande des mises à jour. Voilà, une surveillance constante. Donc voilà, oui, c'est un problème en plus. Et on parle beaucoup de sobriété numérique en ce moment. Les bibliothèques ont un rôle à jouer aussi dedans. Et voilà, ça pose vraiment question dans ce contexte tous numérique.
Bon, bah écoutez, je crois qu'on peut encore applaudir l'ensemble de nos participants. On se retrouve tout à l'heure à 14h pour une thématique politique dans les bibliothèques autour de la publication au bulletin des bibliothèques de France de l'année des bibliothèques, Bibliothèque Objet Politique, sur les valeurs et les impacts des bibliothèques. À tout à l'heure.